Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, beaucoup de films aujourd'hui dans Cinérama et un blind test. On va débuter avec le sommaire, Manu, un film que tu as vu et qui sort le 15 mars, c'est Grave.
Grave d'une jeune réalisatrice, Julia Ducournau. Et puis je vous parlerai donc de La Confession de Nicolas Boukrieff et du Secret de la Chambre Noire de Kiyoshi Kurosawa.
Et le film de Boukrieff nous donnera l'occasion de jouer un blind test spécial, les films dont l'histoire se déroule sous l'occupation allemande. C'est tout un programme. Voilà, donc on écoutera 5 extraits et vous devrez deviner les titres. Marine n'est pas avec nous, mais elle a pu enregistrer une chronique, celle de Monsieur et Madame Adelman, le film de Nicolas Bedos. Quant à moi, je vous parlerai de Citoyen d'honneur, film argentin de Mariano Cohn et Gaston Duprat. Et puis, je vous parlerai aussi de Paris pieds nus, du duo Fiona Gordon et Dominique Abel. C'est Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
Tu manges quoi ?
Des céréales.
Elles sont là, les céréales.
Oui, bah ça va, je prends du lait.
Elle prend pas que du lait. Hein.
Non, alors on va éviter de spoiler, mais je pense que je n'aurais pas trop le choix vu la chronique. Alors, le cinéma de genre français a souvent des difficultés à trouver sa place, à s'imposer dans le cadre d'un paysage qui préfère souvent les comédies inoffensives ou les sempiternels sujets sociaux. Alors c'est donc avec un plaisir immense que je me retrouve là à célébrer la réussite absolue, tant plastique que thématique, de Grave, l'un des films français les plus passionnants de ces 20 dernières années. Alors c'est assez rare de sortir de la salle et de se dire « putain, quel film !» Alors un coup de maître pour un premier film d'une jeune réalisatrice qui n'a pas froid aux yeux et donne un sacré coup de pied dans le genre. Alors, empruntant des chemins de traverse, hein, Julia Ducournau s'écarte aussi bien de la série B Cheap, inspirée du cinéma américain, mais aussi de la tentation autorisante d'intellectualiser son propos. Elle emprunte une voie assez inédite chez nous, hein, tout en s'engageant en surface vers une démarche naturaliste assez classique. Elle se confronte réellement à la puissance symbolique du cinéma d'horreur traditionnel, ou pour être plus exact, à ce qu'on appelle le body horror, hein, qui regrouperait des œuvres majeures comme en gros Carrie, La Mouche, ou encore plus près de chez nous, en France notamment, Trouble Every Day. Alors le pitch de départ est fascinant, hein, et le scénario d'ailleurs un modèle d'écriture, hein, partant d'une situation réaliste pour mieux basculer vers un ailleurs plus complexe. Alors Justine, une jeune étudiante timide mais très équilibrée, poursuit ses études de vétérinaire à Maison Alfort, au nord de la France, selon une tradition bien ancrée dans sa famille. Elle va rejoindre sa sœur. Elle arrive sur les lieux de l'école, emménage dans une chambre d'étudiants et dès le premier soir se fait chahuter selon les rites d'usage d'intégration au nouveau. Bref, le bizutage est perçu comme le premier élément perturbateur sur la psyché de Justine qui va se plier aux coutumes. Alors végétarienne depuis toujours, elle va se voir imposer de manger un morceau de viande crue avant de recevoir lors de la séance de photographie une pluie de sang frais sur le visage. Mmh. Oui, très appétissant. Alors la virulence des organisateurs avec leur folklore débile, hein, et dès l'entrée de Justine dans l'établissement fermée, perçue comme une agressivité que l'on ressent de plein fouet. La réalisatrice nous met du côté de la jeune fille, mais au lieu de vivre ces moments comme un trauma, le bizutage, entrevu par les autres comme un rite d'intégration, devient pour Justine la révélation de son cannibalisme. Alors évidemment, hein, le prénom de l'héroïne n'est pas le fruit du hasard et renvoie directement à l'ouvrage de Sade, Justine ou la vertu outragée. Alors plus loin encore, enfin ou plus près de chez nous, la proximité avec le film de Jess Franco, Justine, est assez troublante, notamment en ce qui concerne le physique de l'actrice principale. Alors Justine doit se libérer de son éducation de jeune fille bien sous tout rapport et se confronter à ses pulsions sexuelles et animales, découvrir qui elle est réellement. Alors la puissance de Grave, hein, beaucoup moins gore que ce que la rumeur annonçait, hein, n'est pas liée à son aspect outré, repoussant. Au contraire, le cannibalisme est perçu comme une pulsion purement érotique, sexuelle. Cette déviance devient même fascinante et elle attire au point de réellement déranger. Grave est une œuvre complexe sur la transgression, sur la découverte de soi, le passage à l'âge adulte et l'acceptation de ce que l'on est réellement. La métaphore pourra paraître un brin appuyée, mais c'est un peu, le lot du genre, hein, c'est souvent le cas. Mais la beauté formelle de la mise en scène ôte toute lourdeur didactique au récit. Alors, la longue séquence où Justine découvre son appétit pour la chair humaine en compagnie de sa sœur lors d'une séance d'épilation qui tourne au drame sanglant est un grand moment de cinéma déviant, à la fois charnel et naturellement repoussant. Julia Ducournau filme les corps avec une intensité fiévreuse. Elle utilise à merveille un décor déshumanisé et glaçant, tout droit sorti, moi ça m'a fait beaucoup penser, d'un film des premiers Cronenberg des années 70, notamment Chromosome 3, mais surtout un film Frisson, qui se passait dans un immeuble assez glaçant, assez glacial.
Une résidence, effectivement.
La lumière crue, surexposée lors des scènes d'extérieur, devient plus sombre à l'intérieur de l'Institut, jouant sur les ombres et les inquiétudes qui tourmentent les personnages. Alors, parmi les autres qualités, la musique de l'anglais Jim Williams, qui avait signé notamment la musique de Kill List, un film anglais, assez hypnotique, dégage également une réelle tension et colle parfaitement aux images sans jamais être envahissante. On écoute un petit extrait. Alors l'autre qualité, pas des moindres, hein, de grave, tient à l'interprétation, plutôt à la découverte d'une actrice extraordinaire, l'étrange Garance Marillier, qui porte littéralement le film sur ses frêles épaules. Elle livre une composition hallucinante, sans jamais donner l'impression de se forcer, hein, un peu comme si Adjani, dans Possession, devenait tout à coup sobre. Alors révélation majeure de ce début d'année, enfin on est déjà en mars, hein, remarquée dans de nombreux festivals comme Cannes ou Gérardmer, avec en poche pas mal de prix, hein, grave est un grand film tourmenté, une œuvre excessive et transgressive sur un sujet tabou que la réalisatrice regarde droit dans les yeux. Et si on peut reprocher à l'épilogue d'être un peu too much, en versant dans un grand guignol inutile, la générosité et l'acuité du regard de Ducournau font plaisir à voir. Et vraiment, moi j'ai été totalement conquis par ce film.
Et l'actrice me fait penser à Adèle Hanel. J'ai pensé que c'était elle d'ailleurs. Mais
Non. Mais puis elle a surtout, ce qui est très rare, c'est qu'elle a vraiment l'âge de l'emploi. Elle a à peine 18 ans, elle est encore au lycée actuellement, elle a 17 ans. Mmh. Et ce côté un peu juvénile convient parfaitement à ce personnage.
Film de genre français grave sort le 15 mars.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Marine n'est pas là, mais elle va nous parler de Monsieur et Madame Adelman, film de Nicolas Bedos qu'elle a beaucoup aimé.
Nous sommes en 2016, Sarah Adelman enterre son mari, le célèbre écrivain Victor Adelman, membre de l'Académie française et vénéré par ses contemporains. La cause de sa mort reste encore inexpliquée. Un jeune journaliste vient interviewer Sarah afin d'écrire un livre sur la vie de son défunt mari. Elle va alors lui raconter son histoire d'amour longue de 45 ans qui commence en 71 lorsque la doctorante en lettres qu'elle est rencontre Victor, jeune écrivain en rébellion contre sa famille bourgeoise. Ils tombent amoureux et vont passer alors plusieurs décennies ensemble, entrecoupées de séparations, de trahisons et de réconciliations.
N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible.
Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait.
Comment tu t'appelles ?
Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule sur le point de griller.
Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même.
Vous avez annoté tout mon texte, là ?
Ah oui ?
Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles.
Ah, c'est peut-être ça, le problème.
T'es la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing ?
Merde !
J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense.
Pas trop vite, mon amour.
Il est où ?
Il arrive, là, madame.
Non, mon mari !
Tout s'enfle en lui ! Pourquoi tu pleures ?
Alors, disons-le de suite, en raison du peu de sympathie que j'ai pour Nicolas Bedos, et je ne pense pas être la seule, j'aurais adoré détester son film. Manque de chance, eh bien je suis d'ores et déjà sûre de tenir ici l'un de mes films français préférés de 2017, tant le premier film de l'humoriste est réussi. Dialogue ciselé, personnage complexe, jeu d'acteur à la hauteur, Nicolas Bedos convainc devant et derrière la caméra et sa partenaire Doria Tillier, dont c'est pourtant le premier rôle et même impressionnante. On l'avait connue en Miss Météo sur Canal+, en sourire carnassier, sa plume féroce avait fait d'elle l'une des figures les plus marquantes de la chaîne, malgré qu'elle n'y soit restée qu'un an. On la découvre ici co-scénariste du film et surtout actrice remarquable, malgré une partition délicate puisqu'elle joue la même femme à diverses époques de sa vie. Le duo fonctionne à merveille, autant dans l'humour que dans l'émotion, et surtout le film possède une immense qualité au regard des comédies françaises actuelles, il est politiquement incorrect et pas un peu. Portant un regard aussi cruel sur ses protagonistes que sur la société dans laquelle ils évoluent, le film fait exploser les conventions et ose aller très loin, provoquant une réaction qu'on n'a plus l'habitude d'avoir devant un écran. Il nous fait vraiment rire. Malgré son écriture acerbe, le film excelle aussi dans la peinture des sentiments. Il sait être subtil et émouvant pour mieux nous attacher à ce couple peu conventionnel. Alors si l'on voulait vraiment pinailler, on pourrait trouver la construction narrative un peu banale, basée sur une interview qui justifie des allers-retours dans le passé et une tendance au montage alterné parfois redondante. Mais pour un premier film, qui de plus ne recherche pas vraiment l'audace formelle, on peut considérer que la réalisation est plus qu'honorable. Contrairement à la plupart des biopics qui se laissent bouffer par la reconstitution historique et qui enchaînent les époques en privilégiant l'anecdote à l'évolution psychologique de leurs personnages, le film, bien qu'il se déroule sur 45 ans, ne tombe jamais dans ce piège. L'histoire est presque vécue en huis clos, les personnages sont suffisamment intéressants et bien écrits pour que l'on n'ait pas besoin de tomber dans le folklore historique. Alors certains diront que tout cela est trop verbeux, que les dialogues sont trop écrits. En même temps, Monsieur et Madame Adelman sont deux personnages intellectuels qui partagent la même passion de la littérature. Il est donc normal que cela donne lieu à des joutes verbales et ces dialogues sont même le principal intérêt du film.
Non mais sans déconner, il faut arrêter de donner le droit de vote à des gens qui font rien pour notre économie. Je t'adore, Victor, mais le jour où tu bosseras...
Pourquoi vous dites qu'il travaille pas ?
Non mais on parle d'un vrai travail.
Bah, arrêtez de l'embêter, il n'y a pas que Victor ici qui travaille pas dans les affaires. Sophie non plus, elle travaille pas.
Oui, mais enfin, Sophie, c'est différent.
Bah, pourquoi ?
C'est juste une femme. Hein ?
Et alors ?
Elle est féministe ?
Je sais pas.
Elle a un prénom, bien que ce soit une femme.
Ah. Je vous ai blessé.
Ah non, rassurez-vous, pas du tout, il m'en faut beaucoup plus.
Ah. Arrête de boire, s'il te plaît, chérie.
Bon, enfin.
Elle picole en plus ?
Moins que votre épouse.
Mais vraiment, mon épouse est différente, elle est alcoolique.
En tout cas, madame, bravo pour la dinde, elle est délicieuse.
Ben, vous direz ça, Philomène, elle est dans la cuisine.
Ah, vous la laissez dans la cuisine un soir de Noël ?
Oui, pourquoi ? Ça vous pose un problème ?
Papa, non, j'ai cru. Papa, s'il te plaît.
Ses parents m'ont accueilli comme si j'étais leur propre fille.
Tu vas voir, ces cocos, ils vont finir par faire la loi chez moi. Ben, je sais plus où j'habite, moi. Je sais plus.
Ah, je vous prie de m'excuser, c'était juste une question.
Oh, mais je vous excuse bien volontiers, mademoiselle. Ouais, l'avantage avec les jolies femmes, c'est que quand elles disent une énorme connerie, ça devient presque séduisant.
C'est marrant ce que vous dites, parce que je pense pareil des vieux messieurs.
Mais elle a des couilles. Bon, écoute, chérie, arrête d'embrasser ce chien. Il va être bourré.
Il ne reste plus qu'à souhaiter que tout cela ne soit que le début pour les deux comédiens et scénaristes, tant il nous tarde qu'ils fassent d'autres films ensemble. Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, c'est sorti le 8 mars en salle et je vous le recommande chaudement.
On l'avait bien compris. Allez, maintenant, on va passer au blind test de cette émission. Mais avant, eh bien, on va parler de confession.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Alors, Un sac de billes de Joffo, enfin le livre, réalisé par Christian Duguay, il a oublié son passé de bisseux, posait déjà la question de l'intérêt d'une nouvelle adaptation. D'autant que venir après le beau film de Doualon était plutôt lourd à porter. Alors, pour la confession, la démarche est encore plus délicate. Le roman de Béatrice Beck, Léon Morin Prêtre, pris Goncourt en 52, a déjà été adapté 10 ans après, en 62, par Jean-Pierre Melville, avec le couple mythique Jean-Paul Belmondo et Emmanuel Riva, décédé récemment.
En janvier.
Le premier réflexe du cinéphile est de se dire « Mais qu'est-ce que Nicolas Boukrieff est allé faire dans cette galère ?» S'attaquer non pas à l'ouvrage, mais à Melville, ce n'est quand même pas simple. Corneau en sait quelque chose avec Le Deuxième Souffle, l'exercice de style clinquant qui essuyait un cuisant échec critique et public. Alors, cinéaste à l'ancienne, mais qui fit parler de lui de manière inattendue lors des tristes événements du 13 novembre 2015 avec Made in France, Nicolas Boukrieff est une espèce en voie de disparition, un artisan efficace changeant de registre avec une facilité déconcertante. Il réalise là sans doute son meilleur film depuis Le Convoyeur, polar social avec Albert Dupontel. La confession est une réussite, on va dire, de la belle ouvrage, une adaptation fidèle au roman d'origine. Sous l'occupation allemande, un jeune prêtre séduisant débarque dans un petit village. Évidemment, il suscite la convoitise de toutes les femmes, d'autant que tous les hommes sont mobilisés sur le front. Barney, jeune femme communiste et athée, va entretenir une drôle de relation avec le prêtre, entre défiance et remise en question. L'un et l'autre ne sortiront pas indemnes de leur confrontation. Les joutes verbales, sur fond de questionnement théologique ou philosophique, ne manquent pas de piquant, sans que jamais Boukrieff ne prenne parti.
Pourquoi voulez-vous avoir des preuves ?
Mais parce que sans preuve, comment voulez-vous que je croie en lui ?
En somme, si vous étiez absolument sûr que Dieu a une existence, vous deviendriez croyante.
Évidemment.
Ça va être difficile parce que Dieu n'a pas une existence. Il est existence. Sans passé, sans présent, sans futur. C'est ainsi qu'il se définit lui-même dans l'Ancien Testament. Je suis celui qui est.
C'est comme si vous disiez X égale X. Et après ?
Mais après rien. La croyance en Dieu, c'est pas une certitude scientifique ou cérébrale, comme vous avez l'air de le penser. La croyance en Dieu, c'est simplement une évidence.
Alors la faiblesse du film tient sans doute à l'aspect un peu littéral, un peu conceptuel du film. Les sentiments d'ailleurs que les deux personnages éprouvent réciproquement ne sont pas évincés, ils sont même évidents, alors que chez Melville rendait la relation plus complexe et ambiguë. Alors un défaut mineur qui n'entache pas l'intérêt d'un drame psychologique tendu comme un thriller, filmé avec beaucoup de rigueur et de tact par un Boukrieff parfaitement maître de son film. Alors la qualité littéraire des dialogues ne paraît jamais artificielle, grâce à une direction d'acteur impeccable, alors même si parfois Romain Duris cela joue trop décontracté avec son petit sourire en coin qui ne le quitte jamais. En revanche, Marine Vacht porte son rôle à bout de bras. Elle est captivante en communiste pure et dure qui va finir par douter de son athéisme et de ses sentiments. La reconstitution d'époque, elle est réduite à sa plus simple représentation. Elle ne se vautre pas dans le chromo passéiste ou les pattes inutiles. Boukrieff rend alors moins hommage à Melville et son style un peu hiératique qu'à certains auteurs classiques comme Jacques Becker ou Julien Duvivier. Il s'en dégage un charme désuet, étrange, de la part d'un ex-critique de Starfix, revue culte des années 80. Si la confession, hein, par trop de retenue, manque d'émotion, une certaine sécheresse à la limite de l'austérité nous mettant en dehors du coup, il s'impose comme un excellent film estampillé qualité française, hein, sans aucune notion péjorative. À noter une photographie splendide, hein, tout en couleurs sombres, hein, certains plans éclairés à la bougie d'ailleurs, je pense, rappelle les tableaux de Georges de la Tour, peinture tournée également vers la religion. Enfin, je trouve que c'est un bel exercice de style, pas un chef-d'œuvre inoubliable, mais on passe quand même un très bon moment.
Eh bien voilà encore un film apprécié dans cette émission. Et maintenant, eh bien, nous allons jouer au blind test avec des films, eh bien, qui racontent une histoire qui se passe sous l'occupation allemande. C'est le premier extrait qu'on écoute.
Ici, c'est une maison tranquille.
Et honnête.
Honnête. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein?
Mais je n'emploie pas, elle me rend service.
Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Racaille.
Ah, laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit.
Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, ouais. Je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste. Mauvais français. Et puis d'abord vos noms, rage, situation de famille et tout. Allez hop, déballez.
Bon, c'était facile.
Oui, La traversée de Paris de Claude Autant-Lara.
Avec Gabin et puis on a entendu aussi Bourville. Deuxième extrait.
Je sais que Félix n'a pas de comprimé de cyanure sur lui. Je n'ai pas peur qu'il parle, non, c'est pas ça. Mais il n'a sûrement aucun moyen de se soustraire à la torture. La Gestapo ne vous laisse ni la possibilité ni le temps de vous suicider. Il faut lui épargner les souffrances qui risquent de s'éterniser des jours, des semaines, qui sait.
J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.
Vous en avez trouvé une?
Oui, il faut pénétrer à l'intérieur de la Gestapo et en ressortir avec Félix.
Voilà, c'est tout simple, c'est trouvé.
Bah, L'armée des ombres, hein, de Jean-Pierre Melville.
Voilà, film de 69. Troisième extrait.
Mais moi, je n'ai jamais cessé de penser à vous. Pas une seule journée.
Moi aussi. J'ai pensé à vous, mais de moins en moins souvent. Et maintenant, je ne comprends pas du tout ce que vous faites ici. J'ai oublié votre nom de famille. J'ai oublié votre prénom. Et je sens que les traits de votre visage vont devenir complètement flous. Allez-vous-en. Allez-vous-en.
Alors, vas-y, là aussi, Depardieu, Deneuve.
Le dernier métro de François Truffaut.
Ouais, film de 80. Allez, un film maintenant des années 2000.
J'allais chercher le scénario. La clé, c'est pas la bonne. Je réfléchis pas, je fonce. Et après, c'est l'engrenage. Le quai, Melun, Moulin, l'avion et vous. Voilà, mais bon, j'ai fait mon boulot. Là, hein, Barquin. Je rentre.
Il est quelle heure?
Sur quel film travaillez-vous en ce moment?
Là, je vais commencer. Cécile est morte. Simenon. Aigret.
Maigret.
Alors, c'est un film bien de Bertrand Tavernier, sorti en 2002. Avec Gamblin qu'on
laissez
entend.
Passer.
Voilà, pas laissez passer. Voilà,
laissez passer. Oui, voilà, oui. Parce qu'il parlait de Maurice Tourneur, du tournage donc, oui. de la Continentale.
Continentale, oui, voilà. Boîte allemande, mais avec des films français. Allez, un dernier extrait, alors extrêmement facile, mais très jouissif.
Merci, messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Bon, vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... Enfin, c'est... Comme c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas un citron, pas un dépensier orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 17. Hop. Alors.
Alors, eh ben on termine bien.
Ah ben alors évidemment, hein, ce n'est pas le chef d'orchestre, parce que ça pourrait l'être, donc c'est bien, c'est la grande vadrouille de Gérard Oury.
Oui, voilà. Et il y a encore des personnes qui ne l'ont pas vu. Eh oui,
ce serait arrive. Étonnant. Hein.
Eh oui, mais pourtant.
Peut-être au Burkina Faso, peut-être.
Voilà, ainsi s'achève ce blind test spécial film, bien sous l'occupation.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passerait aisément.
Et nous parlons maintenant d'un film argentin, c'est plutôt rare, Citoyen d'honneur, de Mariano Cohn et Gaston Duprat. Daniel Motovani reçoit le prix Nobel de littérature, et ce n'est pas rien. Certains l'ont refusé, d'autres l'acceptent avec joie. Daniel, lui, n'est pas dupe et s'en explique à son auditoire à Stockholm. Recevoir un tel prix signifie que sa littérature est devenue acceptable et finalement, eh bien, perd de sa substance. Le discours est fort, grinçant et donne le ton de Citoyen d'honneur, film du duo Mariano Cohn et Gaston Duprat. Le titre du film est emprunté à une autre distinction que reçoit l'écrivain mondialisé, devenir le citoyen d'honneur de sa ville d'enfance en Argentine, Salas. Pour lui, qui refuse toutes les conférences et dédicaces qu'on lui propose à travers le monde, eh bien celle-ci a quelque chose de particulier. Le Nobel habite en Espagne et n'est plus retourné dans son trou paumé à 800 km de Buenos Aires depuis 40 ans. Alors en fait, l'écrivain est bien retourné dans le village qu'il a quitté à 20 ans, mais c'est au travers seulement de sa littérature, car l'homme a puisé quasiment tous les personnages de ses livres chez les habitants de Salas. Alors nous étions partis pour une réflexion sur la littérature et la création, nous allons prolonger le questionnement au travers de la visite du célèbre écrivain au pays de son imaginaire. Entre le maire qui souhaite fructifier son initiative, une vieille histoire d'amour abandonnée, des aigris fustigeant la célébrité et une majorité d'habitants eh bien, qui n'a jamais lu les ouvrages de la célébrité du village, les 4 jours qu'il va passer là-bas vont être rudes. Durant ce séjour, l'écrivain se heurte à un monde qu'il ne connaît que par les histoires qu'il en tire, et ce qui devrait être un séjour vaguement nostalgique tourne petit à petit à l'affrontement. L'auteur troque sa vanité et son regard mordant avec de la sincérité, une pointe de maladresse et de résignation. Un monde sépare le Nobel de ses congénères. Ce monde crée évidemment un décalage propice à la comédie, peinture d'un monde abandonné, personnages grotesques et excessifs, situations absurdes, cruauté, pointe de burlesque et dialogue ciselé. Citoyen d'honneur est une vraie réussite. Le ton est juste parce que l'écriture est fine, la réalisation légère et le montage rythmé servent un récit parsemé de réflexions sur la réalité et la fiction, cela sans pesanteur. Voilà une comédie qui a un vrai sujet et qui ne décevra que les cahiers du cinéma. L'interprétation ajoute une touche de qualité essentielle à l'œuvre de l'écrivain interprété par Oscar Martinez qui a remporté un Lion d'or à Venise pour son interprétation et qu'on a vu en fait dans Les Nouveaux Sauvages, hein, c'était l'artificier qui pète les plombs à cause d'une amende injustement reçue. Et bien lui et tous les autres personnages composés de gueules du cinéma donnent finalement à ce casting redoutable un côté Far West. Voilà. Je vous conseille donc le film Citoyen d'honneur de Mariano Cohn et Gaston Duprat.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et on passe au secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa. Alors autant le dire d'emblée, hein, la déception est un peu à la hauteur de l'attente de cette incursion du cinéaste japonais au cœur d'un cinéma français qui a bien besoin d'être bousculé. Alors quand on a appris que Kurosawa tournait en France avec un casting 4 étoiles et un sujet proche de ses préoccupations habituelles, l'excitation était à son comble. Enfin la mienne, hein, pas du cinéma.
Tu n'endormais plus.
J'en endormais plus, pas presque. La crainte aussi hein, de voir un artiste expatrié dépossédé de son talent, comme il arrive souvent à des auteurs asiatiques. Le secret de la chambre noire, qui pourrait faire écho involontairement au mystère de la chambre jaune, déroute dès les premiers plans. La banalité des lieux ne semble pas convenir au réalisateur. Hein. On est frappé par cette familiarité topographique qui enlève un mystère propre à ces films japonais. Mais cet aspect est sans doute dû à l'exotisme hein, qui nous fascine tant dans le cinéma japonais. Passé cette évidence, le récit prend place dans une demeure gigantesque, isolée du monde. Jean, un jeune homme, est engagé dans un manoir pour être l'assistant d'un photographe à l'ancienne qui utilise que des plaques argentiques, Stéphane, qui vit seul avec sa fille. Elle est son modèle lors de séances particulières et éprouvantes. Jean sent qu'il doit sauver Marie de cette emprise malsaine. Là-dessus, des promoteurs proposent un marché à Jean convaincre le maître des lieux de vendre la propriété. Alors, le paysage du cinéma français laisse place aux intérieurs presque gothiques de la vieille demeure hantée. Kurosawa poursuit ses thématiques avec moins d'inspiration. La cohabitation des vivants et des morts dans un espace flottant, un entre-deux-mondes. Le scénario bancal n'est pas inintéressant et rappelle à bien des égards l'un des films les plus étranges et particuliers de son auteur, Charisma. Mais on reste en retrait, hein, frappé par la médiocrité des dialogues et l'absence d'enjeux. L'art de Kurosawa est toujours présent, cela dit, il n'a pas son pareil pour instaurer une angoisse avec le minimum d'effets grâce à sa science de la mise en scène. Alors une porte qui s'entrouvre suffit à provoquer un frisson. Pourquoi ? Certainement par la manière dont l'auteur filme les lieux, cadre les personnages à l'intérieur d'un espace peu rassurant. Alors les rares mouvements de caméra sont très intelligemment composés, comme si la caméra était une présence fantomatique enveloppant les personnages, ni là pour les terrifier, ni pour les rassurer. Alors cette virtuosité incontestable de la forme ne frappe que par intermittence. On sent l'auteur de Cairo mal à l'aise avec son histoire de fantômes et de ventes immobilières. Il essaie de conjuguer le rationnel et l'irrationnel, mais sans qu'il y ait de connexion et encore moins de lecture politique, très présente dans ses films japonais. Le secret de la chambre noire s'étire aussi au-delà du raisonnable. Hein, durant bien 2h10, c'est à la limite de la complaisance. Hein. Et le twist final, hein, qui n'en est pas un si l'on est familier avec l'univers du cinéaste, tombe à plat tant sa mise en place est évidente et mécanique. Alors, passé la déception hein, et même la frustration de ne pas voir l'un des deux, trois plus grands cinéastes actuels rater ce que quelqu'un comme Verhoeven a finalement réussi avec Elle, Le secret de la chambre noire finit par hanter. Elle reste gravée dans la mémoire quelques jours après sa vision. Des images, des plans impriment la rétine, une ambiance surnaturelle transcende le simple cadre du petit drame bourgeois auquel le film s'apparente en surface. La direction d'acteur, qui va en gêner plus d'un hein, par sa neutralité au point que certains vont penser que les comédiens sont en roue libre, est intéressante. Elle apporte une dimension anxiogène, une étrangeté, rappelant parfois aussi bien un cinéma de genre bis, de Jean Rollin, que certains films de Jean-Claude Brissot. Et je me dis au final, et chaque jour qui passe le confirme, que malgré toutes ces casseroles, Le secret de la chambre noire gagnera en intensité avec le temps. Alors après cette expérience en demi-teinte, hein, Kurosawa est retourné au Japon et a réalisé dans la foulée un film de commande, Creepy, un thriller horrifique qui bénéficie de très très bons échos.
Voilà, bah, ce sera la différence entre un vin jeune et là un petit vin qui mérite de vieillir.
Oui, alors peut-être français. Que ce sera le cas pour Creepy qui sera plus immédiatement acceptable voilà. Aux yeux du public.
Facilement consommable.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on fait très vite avec Paris pieds nus de Gordon et Abel. Après l'iceberg, Rumba et la fée, le duo clownesque Fiona Gordon et Dominique Abel revient au cinéma avec Paris pieds nus. Alors leur univers est reconnaissable entre tous, hein, déjà parce que le couple se met en scène. Elle, la grande rousse, et lui, le grand châtain, se lancent alors dans un numéro de clown qui dure le temps d'un film. Absurde, poésie et surtout burlesque caractérise le cinéma d'Abel et Gordon, qui intègre ici une actrice qui n'a pas pour habitude de faire dans le comique, Emmanuelle Riva. L'actrice qui est décédée en janvier dernier n'est pas réputée hein, pour sa force burlesque. Paris pieds nus raconte une histoire simple. Fiona, une Canadienne, fait le voyage jusqu'à Paris pour venir en aide à sa vieille tante Martha, qui ne veut surtout pas aller en maison de retraite. Mais rien ne se passe comme prévu. Martha s'échappe de chez elle. Fiona se perd dans Paris et trouve sur sa route Dom, un SDF atypique. Fiona cherche Martha et Dom aimerait prendre le cœur de Fiona. Les projets vont rapprocher tout le monde. Peu importe l'histoire, finalement, ce que dévoile le cinéma de Abel et Gordon, c'est un univers burlesque traversé par la maladresse où les mots sont à l'économie. Un cinéma hors d'âge qui a pour modèle Buster Keaton, Chaplin, Tati et Pierre Etex. Paris pieds nus est une ode à la liberté, tout comme une histoire d'amour et également une découverte d'un Paris balisé comme celui de la Tour Eiffel, mais aussi insolite. Une bonne partie de l'action, en fait, est circonscrite sur l'île aux Cygnes, où l'on trouve la statue de la liberté. Certains gags fonctionnent mieux que d'autres, mais on peut reconnaître au duo qui pratique le clown depuis les années 80 un certain talent pour occuper l'espace et animer le cadre. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire sur ce genre de film très très burlesque, où finalement, eh bien, si on est familier avec les auteurs, eh bien, on peut être tout de suite emporté. J'avoue que j'ai un faible quand même pour leur film Rumba.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il va pas contrôler qui est, qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, nous avions beaucoup de films que nous avons aimés. Ça devrait être le cas la semaine prochaine avec...
Ah bah certainement le nouveau James Gray, The Lost City of Z, et puis le film de Aki Kaurismäki, L'autre côté de l'espoir.
Entre autres, à la semaine prochaine.